tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique la complicité de Flo Descailloux. Et j'ai la grande joie de recevoir Nathalie Reims pour un roman Au long des jours, qui vient de paraître aux éditions Léo Cher, un roman consacré à une belle présence, comme on dit, ouais. Mouloudji.
Ouais.
Ah, ça c'est pour vous, j'imagine. Alors, avec une photo de votre sœur Bettina Reims, qui est un polaroïde, et vous avez eu il y a eu un article dans Le Monde des Livres, Nathalie Reims.
Oui, c'est vrai.
J'ai trouvé que c'était une très belle analyse de Virginie François, qui dit au sujet de votre livre, à la manière de la photo retrouvée, un polaroïde, Nathalie Reims polarise la lumière de son écriture immédiate et sensible sur la personnalité complexe du chanteur.
Oui, c'est vrai. En fait, cette photo, elle est remontée à la surface pendant le confinement. Elle avait été évidemment toujours très présente dans mon esprit parce que c'est l'année de mes 18 ans où je l'ai rencontré, on reviendra dans les circonstances qui font qu'on s'est rencontrés. Et puis en rangeant pendant le confinement, je suis retombée sur cette photo qui était dans une boîte en fer. C'était une boîte en fer que j'avais quand j'étais petite, où il y avait un cirque et des clowns, et j'avais mis en fait ce polaroïde dans cette boîte en fer. Et quand cette photo m'est réapparue, il m'a semblé évident qu'il était temps de raconter cette histoire, qui est ma première très grande histoire d'amour. J'avais écrit auparavant, il y a 8 ans, Place Colette, qui était très transgressif comme roman, mais qui était plutôt une histoire d'initiation, on va dire, comme une Claudine de Colette, on va dire. Mais là, c'était vraiment ma première grande histoire d'amour, et je me suis dit, il est temps de la raconter, d'abord parce qu'il n'est plus là, parce que je trouvais que la lumière prenait de plus en plus de distance sur lui, et que comme c'était un être extrêmement libre, extrêmement loin des contraintes, et franchement, je crois que c'est un des hommes les plus libres que j'ai rencontré, comme il n'a cédé à aucune sirène de ce monde de la musique et de ses compromissions parfois, il n'a pas, ça peut paraître bizarre de dire, fait la carrière d'un Ferret, qui je pense était moins libre que lui, d'un Aznavour. Cette liberté avait un prix, il l'a payé. Au moment où on se rencontre en 1978, la carrière commence et le succès commence à s'éloigner un petit peu. Et puis il va petit à petit un peu disparaître des mémoires, pas des mémoires des gens de ma génération, ni de la génération après moi, mais des jeunes générations. Et puis aujourd'hui, on va dire Mouloudji, on connaît peut-être comme un petit coquelicot ou Un jour tu verras, où il a été remis au goût du jour parce qu'il y a eu une chanson pour une pub Intermarché où il y a l'amour, l'amour, l'amour. Mais j'avais tellement envie de le remettre dans la lumière, en fait.
Et il y a des ombres et des lumières.
Il y a des ombres et des lumières, mais en tout cas, ce qui est merveilleux pour moi et pour ses enfants, dont j'ai fait la connaissance après la sortie du livre et qui sont merveilleux aussi, c'est une formidable façon de... Ça fait 2 mois qu'on parle de lui, ça fait 2 mois que je vais de radio en télé, de média en média, et on réécoute ses chansons, et on réentend sa voix, et c'était ce qui avait de plus important pour moi.
Et puis ce titre, Au long des jours, donc le titre d'une chanson éponyme, et... J'aimerais bien qu'on rappelle ces paroles. Au long des jours, je fais l'âme et l'amour, la haine et la tendresse, et je cours les princesses jusqu'à ce qu'amour cesse.
Ouais.
Et c'est ce jusqu'à ce qu'amour cesse qui est un peu le rythme de votre livre, Nathalie Reims.
Oui, c'est vrai. Mais je trouvais aussi que cette chanson qui a été écrite bien avant notre rencontre, raconte bien notre histoire. C'est-à-dire, je cours les princesses, il me l'a dit dès le début. On racontera tout à l'heure dans quelles circonstances. Il m'a dit dès le début, je ne suis pas libre, ce qui était paradoxal, parce qu'il me dit aussi de la phrase d'après, et j'aime les femmes, donc c'était paradoxal comme phrase. Mais moi, je me suis toujours figurée dans sa vie, comme il peignait aussi, il dessinait, il écrivait, on va revenir sur sa carrière, qui est multiple, sur son enfance aussi. Mais je me suis toujours vue comme ayant devant moi une espèce d'énorme boîte de crayons de couleur Caran d'Ache, et de n'être dans sa vie que peut-être un trait de crayon vif, d'un bleu ciel ou d'un rose pâle. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, j'aurais été une de ces princesses qui est passée, mais comme j'ai eu la chance d'être écrivain, cette princesse-là, elle a pu en tout cas lui rendre hommage, là où tant d'autres qui ont dû aussi connaître ses bras ne peuvent pas raconter leur histoire. Moi, la force de l'écriture, vous savez, la force de l'écriture qui est plus forte que n'importe quelle arme de destruction massive, c'est qu'elle est faite soit pour détruire, soit pour construire. Et les mots que j'avais envie de lui consacrer dans ce livre et dans cette histoire, qui raconte à la fois notre histoire d'amour et à la fois sa vie, qui est d'une richesse extraordinaire, c'était pour le remettre en pleine lumière. Et même si, en effet, c'était un homme qui, comme nous tous, était bourré de zones d'ombre, mais on l'est tous.
Oui, et sur la photo, d'ailleurs, c'est vous qui êtes un peu dans l'ombre, vous êtes dans ses bras, on sent, et lui, on sent qu'il a une seconde jeunesse. Enfin, on sent vraiment que...
C'est drôle, parce que Annabelle, sa fille, ouais. Annabelle Mouloudji, me dit qu'elle n'a jamais vu cette expression sur son visage dans toutes les photos qu'il y a. Je crois que ça a été une rencontre très heureuse, et pour lui et pour moi. Et puis, cette photo, je veux juste, puisqu'on en parle depuis le début, raconter un peu la genèse de ce Polaroid, qui est une photo unique, qui nous a permis d'en faire le bandeau du livre. C'est que, quand on commence notre histoire d'amour, il avait une sorte de petit bureau de piole rue de Provence, où on allait de temps en temps, mais moi, j'avais 18 ans, et il en avait déjà 57, donc... il fallait qu'on trouve des endroits où aller. Et puis, un soir, il me dit, j'ai la nuit devant moi, ce qui me semblait déjà énorme. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'on va aller? Prendre un hôtel, c'était impossible, il était trop connu. Et puis, ma sœur, avec laquelle j'ai 8 ans d'écart, était déjà photographe. Elle revenait de New York, elle commençait à être assez connue. Elle a fait une carrière extraordinaire. Et puis, elle avait beaucoup plus de moyens que moi. Moi, j'habitais encore chez mon père. J'étais au théâtre, ça aussi, on va y revenir, je gagnais ma vie, mais j'étais un peu démunie, j'avais 18 ans, je ne me voyais pas aller réserver une chambre d'hôtel à 18 ans. Et j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me prêter ta chambre d'amis? Et elle m'a dit, oui, tu vois ça avec mon assistant. Donc j'appelle l'assistant et je lui dis, écoute, voilà, dans 2 jours, est-ce que tu pourrais me déposer les clés à tel endroit? Et puis je l'ai ramassé aux fleurs, je l'appelle l'oiseau. Dans tout le roman, l'appelle l'oiseau, mais je vous expliquerai pourquoi. J'ai jamais voulu l'appeler Moulou, parce que c'est comme ça que les gens l'appelaient. Pour moi, je trouvais ça affreux, pour vous dire la vérité.
C'est pas très beau.
Marcel, je pense que personne ne l'a jamais appelé comme ça. Donc pour moi, c'était l'oiseau dès le début. Donc j'ai été chercher l'oiseau qui était aux fleurs. On est allé à pied, parce qu'il marchait tout le temps, jusqu'à l'appartement de Bettina. Et puis on arrive le plus discrètement possible. Et puis à un moment donné, la porte de son studio s'ouvre. Et puis elle apparaît. J'étais tellement gênée, j'étais tellement mal à l'aise. Elle nous fait signe d'entrer dans son studio. Donc on la suit. Elle nous met sur un fond gris. Et elle ne le connaissait pas, elle ne l'avait jamais vu. Et elle dit, mettez-vous comme vous voulez. Lui, il me prend par la taille. Moi, je mets ma tête dans son cou parce que je suis un peu... J'ai 18 ans, quoi. Je suis un peu... Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu...
Oui, on sent que vous ne savez pas quoi faire.
Voilà, je suis un peu ébobie par cette espèce, tout d'un coup, d'image qui va finalement sceller quelque chose. C'est presque... Pour moi, quand je l'ai revue, je me suis dit, je vais publier les bancs en publiant le livre, d'une certaine façon. Et puis, elle fait cette photo Polaroid. À l'époque, les Polaroids, c'était des grosses chambres énormes. Donc elle disparaît derrière, l'image sort, elle attend, elle sort un petit tampon glacé, on glace la photo, on regarde tous les trois l'image apparaître, et puis je la mets dans mon porte-carte, quoi.
Ouais.
Et puis la photo, elle va me suivre jusqu'à mes 62 ans, c'est-à-dire l'âge auquel j'ai écrit le livre, quoi.
En plein confinement, l'avez découvert. Ouais. Alors, cette fameuse parole de au long des jours, il y a aussi cette phrase, et je cherche à aimer la vie comme un poème.
Oui.
C'est vrai que vous aimez d'ailleurs le format court, Nathalie Reims,
oui.
La vie comme un poème. Et là, on est dans la foi, dans l'ombre, la lumière, la légèreté. Il y a trois mots d'ailleurs qui pourrait un peu résumer aussi votre jeunesse. Le mot émancipation, ah, j'ai trouvé.
Oui.
Parce que c'est un mot dont on parlait à l'époque aussi. Émanciper, s'émanciper.
La liberté.
Surtout. La liberté.
Ah oui. Oui, parce que je suis née dans une famille, attention, hein, j'adore ma famille, je n'ai jamais été en rébellion contre elle. D'abord, je ne suis pas quelqu'un de rebelle, mais j'ai compris très tôt que si je restais là-dedans, ça n'allait pas... Et je les aime tous, hein. J'ai aimé adorer mon père avec lequel j'habite à l'époque. Ma mère est partie, mon frère, ma soeur font des carrières. Bon, j'ai vraiment la chance de naître dans un milieu privilégié, mais j'ai très très vite conscience que si je ne trace pas ma route... Et si je ne prends pas des chemins de traverse régressifs, on va dire, pour l'époque, très régressifs, je ne serai jamais libre. Et l'idée d'avoir à me coller les gens de mon milieu, ça me semble impossible, quoi. Alors, je le ferai par la force des choses, parce que j'ai un père qui est à l'Académie française et que je ne suis pas en rébellion. Je n'ai jamais été en rébellion. Mais je sais juste que j'aurai une vie secrète, en tout cas au début, les premières années de ma vie. Que le théâtre, c'est un choix, que j'ai arrêté l'école en terminale, je suis rentrée au conservatoire de la rue Blanche, et que j'ai toujours fait des choix, le choix de mes amours, ou le choix de mes sujets de livres, et j'ai un éditeur, deux éditeurs merveilleux là-dessus, qui m'ont toujours laissé libre. Je vais être libre.
Il y a le mot insouciance aussi, et il y a le mot indépendance, parce qu'avec votre père, c'est chacun, vous vivez avec votre père.
Ouais.
Mais chacun a sa vie indépendante, et Vous êtes considérée comme une adulte, très jeune. Votre parrain, votre tuteur, je crois que c'est Roger Hanin, d'ailleurs.
C'est-à-dire, moi, m'apprenant, en fait, c'est-à-dire mon tuteur de théâtre, parce que, en fait, j'ai la chance, je dis toujours ça, ça fait rigoler les gens, mais j'ai la chance extraordinaire d'avoir des parents qui se séparent. Donc, bon, chacun est dans sa vie. Moi, j'ai un père qui est vraiment un coureur, qui est un mec extraordinaire que j'adore, mais qui est vraiment un coureur de jupons, qui a des femmes partout, qui réussit, qui est commissaire-priseur, qui va rentrer à l'Académie française. Et finalement, ça l'arrange d'avoir une fille comme moi, parce que je travaille déjà dès l'âge de 15 ans. Je suis repérée au cours Périmonie par Marcel Tassincourt et Thierry Monnier, qui m'engagent au Théâtre Montpensier à Versailles. Donc, je commence à gagner ma vie, alors que je continue à aller à l'école. Je fais ce qu'on appelle les scolaires. Vous savez, c'était le mercredi après-midi. Le samedi, dimanche, on répétait le soir. Déjà, mon père me laisse aller répéter le soir à Versailles, de prendre le train, de rentrer toute seule. Donc, je vais jouer avec eux. Je vais jouer, Marianne en Tartuffe. Je vais jouer le bourgeois gentilhomme. Je vais jouer des tas de choses. Et puis, un jour, Marcel Tassincourt me dit « Est-ce que ça t'intéresse de jouer, justement, une autre Marianne, d'ailleurs, dans Tartuffe avec Roger Hanin, hein. » Et je lui dis, oui, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, on commence à répéter, on joue alors que j'ai à peine 16 ans. Hein.
Ouais.
Et donc, on commence à jouer au Théâtre Montpensier, puis on part pour une tournée de plusieurs mois, où j'étais censée suivre l'école. Je vous dis pas ce que j'ai suivi l'école. Mais comme j'étais mineure, ils avaient nommé Roger Hanin comme mon tuteur légal, quoi. Donc le soir, après la représentation, on changeait de ville en ville, on a dû faire, une cinquantaine d'endroits. Il devait vérifier que je monte bien dans ma chambre et me coucher, quoi. Donc, il me montait dans ma chambre le soir, je pestais parce que eux, ils allaient dîner, ils allaient faire la fête. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Je lisais de la poésie. À l'époque, j'avais pas de petite radio, j'avais tous ces appareils qu'on a maintenant, mais j'avais déjà une telle passion pour la chanson française. Je l'ai eue depuis petite, cette passion pour la chanson française.
Oui.
Quand je vais rencontrer Mouloudji, je connais déjà son œuvre par cœur, mais comme je connais l'œuvre d'Aznavour, de Barbara, de Gréco, de Léo Ferré, de Brassens, n'en parlons pas, de Brel, évidemment. C'est ce qui m'a construite, en fait, la chanson. Et c'est, je crois, grâce à la chanson que je suis arrivée à l'écriture, en fait.
D'ailleurs, voilà ce que vous écrivez. « J'aimais passer de la musique de Molière ou de Brecht aux mots de Bernard Dimet ou Charles Trenet. C'était devenu ma nourriture, une phrase, une rime, avait le pouvoir de me transporter de joie ou de me faire éclater en sanglots, de provoquer mélancolie ou ivresse. L'art de la chanson, poursuivez-vous, c'est le raccourci. » En trois mots, rendre le reflet d'une époque, c'est la synthèse des rêves et des émotions à fleur de peau.
Mais oui.
Mais c'est vrai que c'est... On sent cette influence de la chanson sur votre écriture, Nathalie Rance.
Oui, parce que j'aime écrire des choses... On me dit souvent que je fais des livres courts. C'est vrai qu'ils sont courts. Enfin, ils font maximum 200 pages, quelquefois un peu moins, parce que j'adore cette écriture à l'os, en fait, où il n'y a absolument pas de fioritures ou de comme ça de choses qui se traînent, de descriptions comme ça. J'aime, comme dans la chanson, les histoires très resserrées, très essentielles, avec beaucoup d'émotions, qui racontent des choses très précises en un minimum de temps. Je continue de penser qu'il est sans doute plus difficile d'écrire une bonne chanson qu'un bon livre. Mmh. Parce que, en fait, on dit la chanson est très très mal considérée. Mmh. C'est pas. Enfin, elle était très mal considérée. Je ne veux pas parler de la chanson aujourd'hui, parce qu'il y a des choses que j'aime et des choses que pas du tout. Enfin, je ne me sens pas très proche de la chanson d'aujourd'hui, pour vous dire, mais c'est des grands poètes, tout ça. Et que, finalement, raconter une histoire en 3 minutes 50 ou 3 minutes 30 et donner autant d'émotions, autant de joie, comme Trainet a pu en donner, ou autant de poésie qu'un Brassens, qui est un génie total... autant de profondeur que Léo Ferré, c'est tellement difficile en 3 minutes et demie. Mmh. Alors un livre, c'est très difficile à écrire aussi, mais c'est un souffle différent, c'est un souffle beaucoup plus long dans lequel vous pouvez vous installer, vous pouvez même traînasser de temps en temps si vous en avez envie. La chanson, quoi qu'il arrive, si elle fait plus de 3 minutes 30, elle passe pas à la radio, hein. Oui. Donc le temps est donné et l'émotion doit être là. C'est pour ça que... Mais je considère aussi, enfin c'est jusqu'à très très tard, je considère que évidemment que Alain Souchon, que Le Forestier, que Goldman, que ça c'est encore des gens qui écrivent des très très grands textes. Non, c'est ces 10 dernières années où ça s'est vachement appauvri, il faut dire la vérité.
Alors il y a cette notion, votre livre, vous avez tenu au mot roman.
Ouais, j'ai tenu au mot roman comme ça l'avait été pour Place Colette ou pour tous les livres qui me sont personnels, parce que en 23 livres, il y a une partie qui semble plus fictionnelle, mais enfin, elle fait toujours référence à des choses que j'ai vécues. Mmh. Et puis, ceux que j'assume tout à fait, comme le livre sur ma mère qui a laissé les cendres s'envoler, ou Place Colette, qui est une histoire avec un homme beaucoup plus âgé, j'ai 14 ans, et je suis consentante, je tiens à le dire, je suis consentante. Je suis une fille, quand je ne suis pas consentante, je n'y vais pas. Mm. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des filles qui sont victimes. Hein. Mm. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimes, mais j'ai eu cette chance-là. Il a pu m'arriver de me trouver dans des situations très difficiles, dont je me suis sortie. Mais je ne dis pas que tout le monde s'en sort. Mais en tout cas, ces choix-là sont les miens. Voilà. Bien sûr.
Et voilà, donc c'est
le mot roman, parce que à partir du moment où vous écrivez et que ça passe par le prisme de la mémoire, parce que j'ai 63 ans aujourd'hui, cette histoire-là, je l'ai écrite, j'avais 18 ans. Donc forcément, je dis que la robe est de telle couleur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je revois son studio, est-ce que c'était vraiment comme ça? Je sais que l'histoire, dans les grandes lignes, elle est celle-là. Il y a une scène... Dans son pavillon où il vit avec sa compagne, je me souviens de la scène comme si c'était hier, mais il y a des choses qui se déforment aussi. D'accord. Et à partir du moment où on passe par l'écriture et non pas par le récit verbal, ce qu'on est en train de faire toutes les deux, mais par cette forme-là qui est la forme de l'écriture, ça devient romanesque, évidemment.
Est-ce que ça aurait pu s'appeler aussi l'humeur vagabonde, hein? Il y a une parenthèse de vie. On est dans une parenthèse, dans un entre-deux, pour tous les deux d'ailleurs.
Oui, enfin pour lui, je pense pas qu'on soit dans un entre-deux, parce que je pense qu'on était dans un entre-trois ou quatre ou cinq, je ne le saurais jamais, parce qu'il avait cette délicatesse. Puis, alors, vous savez, je sais pas cette délicatesse, mais ce qui est certain, c'est que c'était à l'époque où il n'y avait pas de portable. Donc déjà, le fait d'être dans un rapport... on va dire, non seulement extrêmement caché, puis adultérin, et puis enfin, même au-delà de l'adultérin, parce que lui, je pense qu'il a été adultérin toute sa vie avec toutes les femmes, mais ça rendait les choses évidemment beaucoup plus denses. Voilà, lui, c'était... Moi, non, je sais pas, je l'ai vécu comme une... J'ai eu très peu d'histoires d'amour dans ma vie, de grandes histoires d'amour. Celle-ci a été la plus courte.
Est-ce que l'écriture, le fait de l'écrire, justement... Ça... Parce qu'il y a un côté Modiano aussi, on voit Paris, on voit, je parlais de le côté photographique, on voit les sensations, Il y a une sorte de, voilà, de toutes ces vies, vous, vous évoquez. Alors, le théâtre, c'est absolument extraordinaire, vos lecteurs. Par exemple, Maria Cazares, c'est...
Bah, parce que quand je vais rencontrer l'oiseau, en fait, ouais. À cette époque-là...
Drôle d'oiseau.
Drôle d'oiseau, mais je le dis, hein, il a toutes sortes de noms d'oiseaux, d'ailleurs, dans le roman, mais... Ouais. Je suis à la rue Blanche, et puis comme dans, il y a deux conservatoires d'État, maintenant la rue Blanche n'est plus à Paris, mais vous avez à l'entrée, vous avez un grand panneau de Liège sur lequel sont punaisées si vous voulez, les annonces, on cherche. Voilà. Et là, je regarde une annonce et je vois que Georges Lavelli cherche une jeune fille pour jouer Catherine de Russie enfant, que les auditions au Théâtre de la Ville sont tel jour, c'est-à-dire une dizaine de jours après. C'est une mise en scène de Reis Vanni et je vois que c'est avec Maria Cazares. Je n'ai pas vraiment conscience à 18 ans de qui est Maria Cazares. D'ailleurs, j'ai conscience de pas grand-chose à 18 ans, si ce n'est que tout m'a l'air normal. Alors que là, aujourd'hui, je me dis non, rien n'était normal. Et je vais à cette audition. On est évidemment pas mal de filles assises dans les couloirs du théâtre du Châtelet de la ville, comme ça, chacune sur une chaise. Puis je passe l'audition, j'arrive dans une salle toute noire, je vois une table de metteur en scène, une petite lumière, je sens que ça s'agite, qu'il y a du bruit, je sais que Lavelli est là, les assistants. On me fait monter sur cette scène énorme, je suis toute seule, et on me donne un texte à lire, bon, alors je le lis, un monologue. C'est le monologue, le premier monologue qui ouvre la pièce, c'est un... Ça s'appelle Camarade conservateur guide, on est à l'époque de Catherine, hein, et c'est... C'est une jeune fille qui fait visiter un musée.
Ouais.
Et puis après, je repose le texte et on me demande un poème. Et donc, je réfléchis et je dis « Les bijoux », en fait, de Baudelaire. Et bon, j'entends rien, ça s'agite un petit peu dans la salle. Et puis, il y a un moment donné, une assistante qui vient de me dire « Bon, bah, vous êtes engagée ». Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas aussi rapide, c'est pas comme ça que ça se passe.
Et si.
Et si. Donc, bon, donc je suis engagée. À partir de là, on commence les répétitions pendant tout l'été sous la coupole. C'est une énorme coupole en haut du théâtre de la ville, avec du parquet un peu, vous savez, comme le grand dôme de l'Opéra de Paris, mm-hmm. On répète, sous une chaleur accablante. Et puis, bon, là, évidemment, se développe un lien avec Maria Cazares. Qui est déjà âgée, mais qui a l'air encore d'une jeune fille, qui a les cheveux courts, qui est belle comme le jour, qui fume comme un pompier. Alors elle, la liberté, je peux vous dire que j'en ai pris des leçons de liberté avec elle. Et puis ça a été une rencontre extraordinaire. Il y avait des acteurs fabuleux, et on répète. Et puis, voilà, les représentations commencent. Et dans la troupe, il y a une jeune femme qui est là, qui fait de la figuration et qui fait plusieurs apparitions. Et elle me dit, ah tiens, dans 4 jours, je viens, j'ai invité mon compagnon. Alors c'était un auteur-compositeur, je ne sais pas si quelqu'un peut s'en souvenir ici, qui est vraiment méconnu aujourd'hui, qui s'appelait Jean Arnulf, et qui avait écrit une chanson qui avait fait Florès à l'époque, qui s'appelait... Il faudrait voir à pas mélanger les torchons et les serviettes. Et donc, elle me dit, ben, on viendra te dire bonjour. Et on vient avec un ami. Et puis, cet ami, c'était l'oiseau.
Ben voilà.
Voilà. Voilà. Donc, mais voilà comment ça commence.
Ce qui est merveilleux, Nathalie Reims, c'est que ben, finalement, vous faites confiance en la vie. Vous faites confiance.
Toujours. J'ai toujours fait confiance dans la vie.
Vous faites confiance.
Et dans mon instinct.
Et dans votre instinct.
Ah, oui.
Et lui, l'oiseau, Mouloudji, lors de votre première rencontre, il vous dit, après un silence, il murmura, il faut toujours laisser une place au hasard.
Oui.
Et cette place-là, comme vous laissez aussi la place au lecteur.
Oui. Oui, c'est vrai, parce que, en fait, donc, il me complimente sur mon travail. Et moi, dans la loge. En plus, j'ai une habilleuse qui est en train de me défaire un corset. J'ai la robe de Catherine jeune. J'ai une espèce de truc qui pèse 10 kilos sur les épaules. Je suis très gênée. Et je lui dis, vous savez, j'adore vos chansons. Je suis gênée. Enfin, j'ai 12 ans et demi, là. Et je lui dis, ma préférée, c'est Faux vivre. Et il éclate de rire. Et il me dit, c'est pas une chanson très gaie pour une jeune fille comme vous. Et je lui dis, oui, mais c'est ma préférée. Il me dit, ben, vous savez, lundi, vous faites relâche. Oui, je dis oui, je fais relâche. Et il me dit, je chante à la Villa d'Est. Est-ce que vous voulez venir? Parce qu'à l'époque, justement, comme il déclinait un peu, il gagnait sa vie à la Villa d'Est. Donc, je me rends lundi à la Villa d'Est, je vous dis pas dans quel état, je tremblais. J'avais changé 25 fois de jean. Je dis de jean parce que j'ai pas de robe. J'ai pas de jupe non plus, mais enfin, un jean, c'est un jean, c'est voilà. Et de pull, et je savais pas comment y aller. J'arrive, et puis bon, bah, évidemment, il chante Faux Vivre en me regardant. Et puis, il m'avait fait signe de l'attendre. Donc, le spectacle se termine. C'était une sorte de cabaret, enfin, qui, je crois qu'il existe toujours, je suis pas sûre. Rue Arsène Houssaye. Ouais. Et puis, on part dans Paris. On était en plein hiver, il faisait très froid. Puis, à un moment donné, il me prend la main. Et on marche. Puis, il commence à me parler, justement, de cette enfance, de sa vie, de tout ce qu'il a vécu. Et c'est là... Ou à un moment donné, je ne sais plus ce que je lui dis, et c'est là où il me dit il faut toujours laisser
la place au hasard.
Voilà.
Il faut dire aussi que Mouloudji, c'est un personnage de roman. Et pour revenir sur Maria Cazares, voilà ce que vous écrivez sur Maria Cazares. L'intensité de son regard faisait remonter en nous les siècles passés. Et un jour, elle vous lègue, je crois, elle vous offre une pierre. Le soir de la générale, Maria avait déposé sur ma coiffeuse une ravissante bague de forme carrée en onyx. Je m'étais empressée de la glisser au majeur de ma main gauche. Son geste m'avait bouleversée. Un petit mot l'accompagnait. Sois heureuse, signée Maria.
Oui, c'est vrai. Et évidemment, je l'avais pris comme un talisman. Le mot, je l'ai toujours. En revanche, la bague, c'est affreux, parce qu'un jour, j'étais dans un train, je me suis lavé les mains, et je n'ai pas remis la bague, et je suis tout de suite retournée dans les toilettes, et la bague avait disparu. Mais je pourrais la dessiner tellement elle est présente. Mais bon, ça a été une rencontre... Elle m'a appris à lutter contre le désespoir, surtout, et elle m'a appris le rire dans toutes circonstances.
Et oui, en toutes circonstances, nous allons faire une pause musicale parce que je ne sais pas ce qui se passe en régie, Nathalie Reims. Bref, Mouloudji nous fait signe.
Bah oui.
Hein, donc on va lui laisser quelques notes, plus que quelques notes de musique.
Malgré les grands yeux du néant, c'est pour mieux te manger, enfant, et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre des gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas un beau qui veut paradis et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous ces morts en goguette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au mur du temps et par d'autres reprises en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans le naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'y peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera voir jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre.
Radio Libertaire, Faut vivre de Mouloudji, qui est régulièrement diffusée sur l'antenne par la chanteuse Mélis Mel.
Eh oui, vous écoutez toujours Bibliomanie et nous sommes en compagnie de Nathalie Reims. Nous évoquons Mouloudji, que vous connaissez tous, et nous cheminons aux côtés de Nathalie Reims au long des jours, son roman qui vient de paraître aux éditions Léo Cher. Alors c'est vrai, Nathalie Reims... Voilà, c'est comme une parenthèse de temps, votre roman. Mmh. Et puis, Mouloudji, là, c'est une leçon aussi de vie. C'est un homme qui marche, par exemple. Bon, il y a sa mère aussi qui avait été internée. Il a une histoire très difficile.
L'histoire est très dure depuis le début. Il a un frère qu'il adore, qui va mourir très jeune. Et ils ont tous les deux des parents. Donc, ils sont nés de pères algériens et d'une mère qui vraiment est... On dirait aujourd'hui sans doute bipolaire ou maniaco-dépressif qui a des crises de démence, les routes coulent, les jettent dans la rue. Et ils se retrouvent finalement très très jeunes, complètement livrés à eux-mêmes et par leur charme, leur intelligence et ce qu'il avait déjà adulte mais qui existait dans l'enfance. Ils vont faire un parcours malheureusement... Mouloudji va continuer ce parcours sans son frère qui, à un moment donné, va tomber malade. Mais ils vont surtout être accueillis. C'est marrant parce que c'est incroyable parce qu'en même temps, il est de sang mêlé, mais c'est le titi parisien, quoi.
Ouais,
il va d'abord commencer très tôt à faire du cinéma. Il va faire Les Disparus de Saint-Agile. Et puis, il va être pris sous son aile par énormément de gens, par Marcel Duhamel, par Jacques Prévert, avec lequel il va faire des chansons, puis un album. Il va être recueilli par Desnos, il va être éduqué par tous ces gens-là. Il va rencontrer Jean-Louis Barrault, qui à l'époque est dans l'atelier qui servira plus tard à Picasso pour peindre les Demoiselles d'Avignon. On lui apprend le théâtre. Il se moule dans tout ça pour finir par être l'enfant chéri du couple Sartre et Beauvoir et dans ses multiples activités, parce qu'au début il chante pas, en fait il sait pas, il fait du cinéma, il fait plein de choses. Simone de Beauvoir va quand même devenir son éditeur.
Ah oui,
c'est pas rien. Et pour son premier roman, avec qui va le dédier, il va lui dédier qui s'appelle Enrico, et il a écrit des romans extraordinaires qui racontent d'ailleurs extrêmement bien sa vie. Enrico, c'est sa jeunesse, et c'est fou de se dire que cet enfant-là, ce garçon-là, qui va être plus parisien que les Parisiens, j'allais dire plus. Voilà, par cette espèce.
C'est l'enfant de Paris,
c'est ça. Oui, c'est l'enfant de Paris, c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'enfant de Paris qui vient d'un milieu plus pauvre et plus misérable, c'est pas possible, et qui va à la fois donc s'en sortir, et ça va faire quelqu'un de. Ça va donner quelqu'un de très paradoxal, en fait. J'en parle souvent avec Annabelle, puis j'en parle avec Grégory aussi, son fils qui vit la plupart du temps aux États-Unis. Ils sont tous les deux de mères différentes. Mm-hmm. Ils sont aussi merveilleux l'un que l'autre. Et surtout, je leur ai envoyé le texte après l'avoir écrit, J'avais une peur de leur réaction. Et puis bon, ils m'ont envoyé une lettre magnifique. Tous les deux, on s'est rencontrés. Et Annabelle sort maintenant à l'IF chez Léo Cher en juin, dont je suis très fière. Je suis très fière d'elle, d'ailleurs. Et ce paradoxe, c'est que ça va donner à la fois quelqu'un qui va vouloir rester libre toute sa vie, qui va vouloir ne subir aucune pression, aucune contrainte. Il dit toujours, il est émerveillé d'ailleurs, il a vu son père tellement trimé pour 3 sous, qu'il est émerveillé qu'à l'idée de juste chanter, il gagne sa vie. Déjà, l'idée de manger parce qu'on chante, c'est déjà pour lui quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, ça j'en parle pas vraiment dans le livre, mais on parle de lui aujourd'hui, on essaie d'aller plus loin dans le portrait, ça donne un homme avec un rapport à l'argent assez compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne veut pas de contraintes, et en même temps, de son enfance si pauvre, il y a cette peur de manquer. Il y a cette peur à la fois de tomber dans l'oubli, quand je le rencontre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de désenchantement, de ne pas finalement avoir la carrière qu'il aurait voulu avoir, mais il n'a rien fait pour l'avoir. Et puis, il y a cette espèce de désinvolture vis-à-vis de... des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent, mais en même temps, de par cette extraordinaire précarité qu'il a vécue dans son enfance et dans son adolescence, il y a cette peur de manquer.
Il y a cette peur de manquer, mais il y a cette liberté. C'est un anarchiste, on peut dire. Vous dites d'ailleurs.
C'est vraiment un anarchiste. C'est-à-dire, vous savez, ça me fait rigoler entre guillemets, mais aujourd'hui, c'est devenu un mot valise, quoi. Ouais. Pratiquement. Tout le monde, je suis anarchiste, on fume 3 joints, on est anarchiste, je sais pas ce qu'on fait, on dit merde à Macron, on est anarchiste. Bon, c'est très bien, moi, je trouve ça très chouette d'être anarchiste. Mais enfin, être anarchiste, c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, c'est un engagement, c'est un vrai engagement. C'est-à-dire qu'il faut être capable de renoncer, j'allais dire, de renoncer au diable, quoi, d'une certaine façon, même si... il y a cette chanson merveilleuse qui chante où il dit catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, mais athée ou grâce à Dieu, voilà. Ouais. Il était totalement athée, mais il y avait cette espèce de chose, ce mélange de liberté extrême, mais c'était pas un saltimbanque, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait besoin d'une sorte d'ancrage en même temps, même s'il passait son temps à échapper à cette entrave. Bon, il s'était quand même laissé enfermer dans une relation avec une femme très dure. Elle voulait plus qu'il vive à Paris. Il s'était acheté un petit pavillon à Suresnes. Bon, il y a une scène qu'on révélera pas, qui est dans le livre, parce que elle est importante, mais je préfère que les gens la découvrent. Ou à moi, un jour, pour des raisons qu'on comprend quand on lit le livre, je vais me retrouver dans ce pavillon à Suresnes. Et moi, je l'imaginais dans mon esprit. Je le voyais tellement, surtout que j'étais allée rue de Provence, là où il avait son bureau, entre guillemets. Et là, tout d'un coup, je le retrouve avec une petite bourgeoise méchante et petite bourgeoise, je ne sais même pas si c'est ça d'ailleurs. Et dans un endroit sinistre. Et je me dis, mais finalement, au fond, il y a quand même une prison quelque part en lui.
Oui, il est emprisonné.
Il est emprisonné. C'est un mélange d'ultra-liberté et d'emprisonnement.
Alors, voilà ce que vous écrivez au sujet de son anarchisme, justement. Il était devenu, formé par la seule école de la rue, un authentique anarchiste, sans Dieu ni maître, uniquement guidé par ses émotions et ses sentiments. Un anarchiste sans doctrine, comme seul un poète peut l'être et le chanter. Son anarchisme s'inspirait aussi d'un dilettantisme revendiqué qu'il assumait totalement. C'est-à-dire qu'il n'aime pas se faire piéger. Par exemple, Simone de Beauvoir l'édite, mais lui va refuser après d'être édité par Gallimard.
Il est édité par Gallimard au départ. Ouais. Et puis, quand les choses lui plaisent plus, c'est-à-dire que quand Gallimard lui demande trop de corrections, trop de contraintes, à un moment donné... Il va monter sa maison d'édition, il va monter une maison de production pour pouvoir enregistrer des chansons, des chanteurs si je vous le dis aujourd'hui, je suis même pas sûre que vous enfin, si Cora Vauquer ou Monique si. Morelli, peut-être les gens s'en souviennent, ouais. Mais après, c'est des gens totalement obscurs. Et il va engager tout ça parce que justement, il veut retrouver cette liberté au prix d'ailleurs de ne pas vendre de livres, au prix d'avoir des échecs discographiques avec les gens qu'il produit. Mais parce que c'est son choix.
Oui, voilà. Oui, oui. Et voilà, d'ailleurs, vous dites, il a soutenu des talents. Les artistes produits par son label seraient très nombreux et rarement très soutenus. Qui se souvient de Nicole Louvier, Catherine Paysan, Rosalie Dubois, ouais. Chris Carroll, Jean-Max Ebrua, etc., etc.
Alors, Chris Carroll, oui, parce que... Enfin, pour ceux qui aiment la chanson française.
Oui.
Parce qu'elle a écrit d'extraordinaires textes pour lui. Puis Chris Carroll... Comme Bernard Dimet, bon, c'est des gens qui ont écrit d'immenses chansons, voilà.
Puis aussi, voilà ce qu'il dit. Je suis un amateur qui fait sérieusement les petites choses dans tous les domaines. Voilà, il veut garder cette liberté.
Ah, mais il le veut, puis il le dit, puis il le revendique. Alors, il le dit vraiment. Et puis, il y a une forme de je veux vous dire, à la fois de désinvolture, et puis, en même temps, peu... En 5 minutes, peut-être même pas, on peut passer de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sur son visage ce côté complètement solaire, complètement lumineux qu'on voit sur cette photo d'ailleurs, où tout d'un coup le soleil entre dans la pièce, et puis tout d'un coup tout s'obscurcit.
Il y a l'éclaircie et puis il y a l'obscurité, oui. L'apesanteur et l'apesanteur, la liberté.
Voilà, l'apesanteur et la liberté.
Et la
tout
liberté.
Le temps.
Des critiques ont dit que je ne savais pas écrire, alors j'ai écrit pour mon plaisir. Si ça se vend, tant mieux. Si ça ne se vend pas, tant mieux aussi.
Ben oui, oui, mais ça, je pense qu'il le pensait vraiment.
Et puis, c'est aussi, je trouve, un homme de rupture. Voilà, il échappe tout le temps.
Il échappe tout le temps, mais après, quand on connaît, je parle d'elle parce qu'elle est morte, donc bon, oui. Je fais de mal à personne. Hein. Quand on connaît le Cerbère, que tout le monde appelait un peu comme ça d'ailleurs à l'époque,
ouais.
Quand on connaît le Cerbère chez qui il rentrait, je trouvais, et moi-même, une fois que j'ai découvert cet endroit sur Rennes, je crois que là, il y a quelque chose en moi qui s'est, je dis pas qui s'est désenchanté quelque part, mais qui a jeté une zone plus, encore plus ombrée sur lui, parce que je le pensais justement, ce serait vrai sans Dieu ni maître, c'est vrai dans une extraordinaire liberté, mais enfin. Peut-être, parce que alors c'est très facile de dire ça, le rapport à la mer, machin, je sais qu'on a toujours une tendance à dire ça, mais peut-être parce qu'il avait été très maltraité par sa mère. Et ben, elle le maltraitait. Ça, je peux vous dire que j'ai été victime, j'adore, je ne voulais pas dire du tout ça. J'ai été témoin, le lapsus c'est bien, mais victime aussi, évidemment, collatérale de ça, bien sûr.
Il faut dire aussi que c'est un peu vous faire venir... Vous êtes très jeune à l'époque, je ne sais pas, enfin, je trouve que de sa part à lui,
oui,
c'est
si
pas...
On raconte, si on raconte la scène, on la raconte vaguement, mais c'est vrai qu'un soir, on se retrouve rue de Provence, et puis j'étais partie, il m'avait donné un livre, parce qu'on correspondait, soit on se cherchait, j'appelais la Villa d'Est, quand j'étais encore au Théâtre de la Ville, il appelait le Théâtre de la Ville le soir, on se laissait des mots chez ma gardienne, je laissais des mots à la Villa d'Est, enfin... Nos retrouvailles étaient rocambolesques. Hein. On se rend pas compte aujourd'hui ce que c'est qu'un téléphone portable, mais c'est génial, quoi. Pas pour tout, hein, bah, mais en
non,
tout cas pour ça.
Pas pour l'écriture,
non,
Nathalie Reims.
Pas du tout, pas pour l'écriture, mais enfin pour joindre quelqu'un, c'est pas mal, hein, quand même.
Oui.
Mais bon, ça donnait encore plus justement de romanesque à la chose, voilà. Et puis un jour, je partais tourner. J'étais décidément liée à l'anarchie dans ma vie. Et pourtant, je ne venais pas d'anarchiste, hein, c'est ça qui est marrant. Je pars tourner à La vie de Gaston Couté. À l'époque, c'était Antenne 2, je crois, ça s'appelait comme ça.
Oui, c'est ça, voilà. Ça s'appelait comme ça.
Et il sait que je vais partir pendant 15 jours, hein, et je n'ai pas du tout envie de partir. Et il me donne Le pied-à-terre, qui est son dernier roman, qui est l'histoire d'un vieux prof de chant. Enfin, c'est incroyable, c'est sur la mort et... sur le désir d'accueillir un pied-à-terre pour y reposer toute sa vie. D'ailleurs, ce pied-à-terre, il existe. Le sien, il est au Père Lachaise. Il est tout petit. Et il me donne ce livre et je le lis dans le train. Je partais à Mains-sur-Loire, puisque c'est les origines de Gaston Couté-Athée à Mains-sur-Loire. Je prends le train et je lis le livre dans le train. Et puis, bon, c'est tellement amoureux, il faut dire. Mais on parlera justement, rappelez-moi qu'on parle de ce sentiment d'amour qui est remonté pendant l'écriture. Je lui écris une lettre, une lettre d'une fille amoureuse, quoi, à qui on donne un livre et qui en fait l'analyse. Et puis, cette lettre, je lui fais déposer à la Villa d'Est quand je rentre. Et puis, évidemment, il la garde. Et puis, Liliane, puisqu'elle s'appelait Liliane, tombe sur la lettre. Et donc, un soir, quand on se retrouve, je vois que ça va pas du tout, quoi, qu'il a quelque chose à me dire. Et il me dit, Liliane est tombée sur ta lettre. Alors, bon, je dis oui. Et il me dit, il faut que tu viennes déjeuner à la maison pour la rassurer. C'était une phrase qui était vachement difficile. En
fait. Oui, je trouve. Ouais.
Parce que, bon, tout d'un coup, c'était à moi de rassurer.
Oui, puis vous étiez très jeune.
J'étais très jeune, voilà.
Mais ce qui est beau...
Après, c'est la scène de Suresnes qu'on racontera pas, Mais ça m'a forgée en même temps. C'est-à-dire que ça faisait partie de l'expérience. Et finalement, en me retournant sur tout ça, je me dis que c'est un accélérateur de vie. D'abord, d'aimer les hommes plus âgés, ce qui a toujours été mon cas. Et puis, c'était un accélérateur de vie parce que j'ai compris, vous voyez, si j'étais sortie avec des ados prépubères, si c'est pour aller dans les booms ou se rouler des pelles, c'est pas sur Claude François. Moi, franchement, ça me faisait chier. Donc, j'ai appris la vie, quoi.
Vous avez appris la vie, mais ce qui est intéressant, c'est votre rapport à l'écriture. Parce que pendant tout le livre aussi, donc par ces livres, vous le connaissez, et vous allez de nouveau à sa rencontre par les mots.
Oui. Ben oui.
Et lui, c'est un personnage de roman. Dans tout le... Vraiment.
Ah oui, non, mais ça, on a fait tout le temps. Oui.
Mais il y a ce rapport à l'écriture.
Oui, bien sûr, il y a ce rapport à l'écriture, il y a ce rapport aux mots, et de toute façon, je tombe amoureuse au début, avant de le rencontrer, de sa voix, bien sûr, de ce qui dégage, évidemment, parce qu'il avait un charme irrésistible, mais aussi de ses mots, qui ne sont pas tous de lui, hein, comme beaucoup de chanteurs. Justement, il y a Chris Carroll qui lui a écrit des chansons merveilleuses, il y a Dimé, il y a des gens comme ça. Mais en tout cas, des mots, de l'interprète, de ce qu'il choisit. Et puis, nos conversations qui sont tout simplement des mots aussi.
Et des mots dans la vie.
Et des mots dans la vie.
On va faire une pause musicale et nous poursuivons notre conversation autour de votre livre Nathalie Reims et de Mouloudji.
Au long des jours, je fais l'âme et l'amour, la haine et la tendresse, et je cours les princesses jusqu'à ce qu'amour cesse. Au long des nuits, j'engrange les souvenirs, les villes et les gares, les femmes et les rues, les ombres et les charmes, et je cherche à aimer la vie comme un poème, sans souci des soucis, et à dire je t'aime. Au long des jours, je fais l'âme et l'amour, jusqu'à ce qu'amour cesse. Au long des filles, mes filantes étoiles, qui m'offrirent ciel aux lèvres, des prairies de baisers et de fleurs où je flâne. Au long des belles, ces mômes enchantés, pour qui j'ai tant chanté, pillé, volé, brûlé, de souvenirs en flammes, et je cherche à aimer la vie comme un poème sans souci des soucis et à dire je t'aime. Au long des jours, je fais l'âme et l'amour jusqu'à ce qu'à mon cesse. Au long des rêves, fillette bleue et or, je m'en souviens encore. Tu m'as jeté un sort que je poursuis sans cesse. Au long des ans, pour revivre l'instant merveilleux où tes lèvres posèrent sur mes lèvres l'inoubliable fièvre, et je cherche à aimer la vie comme un poème sans souci des soucis et à dire je t'aime. Au fil des jours, je fais l'âme et l'amour jusqu'à ce qu'amour cesse.
Il y a quelque chose d'important que je voulais dire sur la liberté. Il dit ces mots me enchantés, pour qui j'ai tant chanté. Et à un moment, il dit ces fillettes bleues et or. Vous croyez qu'aujourd'hui, ce serait possible d'écrire ça ?
Non.
Sans être accusé d'être pédophile ? Il n'était pas pédophile. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la limite des mots ?
Oui, hein, c'est, on disait les mots dans la vie.
Et c'est-à-dire que pour lui, ces mômes enchantés, la môme, elle peut avoir 22 ans, elle peut avoir 23 ans, elle peut avoir 24 ans. Il en a 50. À l'époque, quand il chante ça, il est déjà très mûr.
Oui.
Et ses fillettes bleues et or, c'est-à-dire que voilà, enfin, il n'a jamais touché des jeunes adolescentes. Vous voyez la signification des mots ?
Oui,
comme
c'est
ça
ce que
peut
je
être
disais,
dangereux.
Mais c'est...
Voyez, sauf qu'à l'époque...
Mais c'est pas la même époque, Nathalie.
Mais non, mais je sais bien.
Et c'est ça aussi le charme de votre livre.
Mais je sais bien. C'est que, il dit, toute la chanson aujourd'hui serait contestée. Au long des jours, je fais l'âme et l'amour, la haine et la tendresse, jusqu'à ce que l'amour cesse. Allez hop, on passe à une autre. Voilà, ces mômes enchantés, ces fillettes bleues et or. Or, c'est sublime.
Ben oui, je
quand, dis pas. Quand on écoute le texte. Mais il peut être analysé et expliqué aujourd'hui à travers une certaine façon de voir les choses comme un texte qu'on interdirait.
Oui,
mais... Enfin, qu'on contesterait, en tout cas.
Qu'on contesterait, peut-être. Mais je voudrais revenir, Nathalie Reims, à cette belle parenthèse de vie, à cette liberté d'être. Et puis... Mouloudji, il y a comme une constellation, justement. Vous m'évoquez des étoiles. C'est une constellation, sa famille d'élection. Par exemple, il avait aussi d'autres familles de substitution chez qui les deux frères pouvaient rester dormir, comme les Desnos, Robert le poète, et sa compagne Yuki, ex-madame Fujitka, qui vivait 39 rue Mazarine. Et puis, il y avait Marcel Duhamel, là je vous lis, hein, et sa compagne Gazelle, qui occupait un grand appartement rue de Varennes. Marcel Duhamel, futur créateur de la série noire chez Gallimard, décida de jouer sérieusement le rôle de père adoptif et de faire découvrir aux garçons les merveilles du monde moderne. Donc, en fait, il a une famille compliquée, complexe, lui-même est complexe, très complexe, assez intériorisé, je trouve, assez...
Oui, il est très intériorisé.
Assez anxieux, malgré... Il y a de la gravité.
Très anxieux.
Il y a une sorte...
Très anxieux. De temps en temps, ça se détend et ça rit.
Oui.
Mais le fond de l'enfance, qui ne le quittera jamais, au fond, la perte du frère aussi.
Oui, et un point commun avec vous.
Oui, un peu comme avec moi.
Il y a des points communs avec vous. Hein, vous...
Ah ben, il y en a beaucoup. Je pense que de toute façon, ce qui était tellement étonnant et intéressant, c'est que finalement, venant d'horizons totalement différents, de, je sais pas, j'ai horreur du mot milieu, mais enfin bon, mon enfance avait été aussi facile que la sienne avait été difficile, et pourtant tant de choses nous réunissaient.
De points de départ différents.
Oui, mais ce même désir de liberté, et de n'appartenir à rien, et de ce que je continue à poursuivre dans ma carrière d'écrivain. C'est-à-dire que je ne fais pas de concessions, pas assez, je le sais très bien. C'est-à-dire que je ne vais pas dans les soirées, je ne vais pas dans les cocktails littéraires, je ne vais pas dans les dîners, je ne vais nulle part, j'appartiens à aucun jury. Je ne peux pas, je suis trop libre pour ça. J'aime trop mon métier, j'aime trop, je peux, c'est un métier d'ailleurs, mais j'aime trop mon activité. Alors vous allez me dire, c'est un luxe extraordinaire de faire des choix, oui, mais je l'ai fait et la liberté passe avant tout pour moi.
Vous auriez pu faire d'autres choix aussi.
J'aurais pu faire d'autres choix, mais je veux dire, ma fidélité à Léo Cher et à Angie David.
Oui.
J'aurais pu aller dans une grosse maison, j'aurais pu faire plein de choses, mais je suis trop attachée à la mienne, à mes éditeurs,
à
ma famille.
La fidélité,
à ma famille.
À votre famille.
À ma famille que je me suis fabriquée, comme lui s'est fabriqué sa famille.
Voilà, c'est ça, tous les deux, vous avez été créés, mais c'est aussi le chemin de la vie. Par exemple, oui. Il a été par Raymond Queneau, qui a été aussi son protecteur.
Ah oui, non, mais, Queneau, ça, c'est, pour, la... mais c'est pour vous dire à quel point l'être était irrésistible. Hein. Insaisissable, irrésistible, avec un charme... indescriptible. Alors, ce qui m'a été mon challenge de départ, en fait, c'est que quand je suis tombée sur la photo,
oui,
je me suis dit, il y a deux solutions. Soit quand je commence à écrire, c'est-à-dire je savais que j'allais commencer dans les jours qui suivaient, je me suis dit, soit j'arrive à retrouver mes 18 ans dans l'écriture, hein, parce que j'ai pas de produit miracle pour ça. Soit je sens qu'il y a un très léger décalage et que c'est la fille de 63 ans qui se souvient de la fille qu'elle était à 18 ans. Et en fait, dès le début, parce que moi j'ai une tradition, enfin c'est presque un rituel, puis j'ai peur de perdre, parce que j'écris dans des conditions, je ne vous dis pas. Enfin, je ne sauvegarde rien, c'est un bordel. Bon. Et tous les soirs, j'envoie ce que j'ai fait à mon éditeur qu'il sauvegarde. Et je lui ai dit tout de suite, dis-moi, si c'est une fille de... Je voulais être la fille de 18 ans. Je voulais pas être la femme que je suis aujourd'hui qui se penche sur son passé et qui raconte l'histoire qu'elle a vécue. Et en fait, c'est totalement arrivé parce que j'ai tout de suite instantanément replongé dans celle que j'étais à 18 ans. Et puis surtout, ce qui était affreux, c'est que vraiment le temps de l'écriture, puis même un peu depuis d'ailleurs... Je suis un peu obsessionnelle, c'est-à-dire que je suis retombée amoureuse de lui en écrivant, mais vraiment. Hein. Et tous les jours, j'y pense et je dis à Annabelle, elle m'est tellement mignonne, elle me dit, ça aurait été tellement bien que tu sois notre belle-mère. On a tous le même âge, hein, mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, je suis retombée amoureuse de lui et j'y pense tout le temps. Alors que bon, j'y pensais de loin, je savais. Mais le fait de me plonger, d'écrire avec la force qu'est l'écriture... Et tout ce qui a remonté à la surface, bon ben voilà, je suis redevenue la fille de 18 ans, amoureuse d'un mec quoi.
Mais ce qui est, c'est surtout que vous redevenez comme sur la photo en fait qu'on voit là. Vous devenez à votre tour un personnage de roman. Vous êtes la jeune fille qui est amoureuse de ce mystère en fait, parce que c'est un homme qui est presque, vous êtes presque plus forte que lui, parce que vous le rassurez, on sent qu'il est dans l'anxiété, qu'il y a bon, que c'est un...
Bah, je veux tellement lui montrer que je l'aime, que oui, je vais aller à Suresnes rencontrer sa femme et que oui, je passe mon temps à le rassurer, c'est vrai. C'est déjà ma maturité, parce que je crois que toute ma vie, j'ai passé ma vie à rassurer les autres, en règle générale, tous les gens que j'aime, je passe mon temps à les rassurer, n'étant pas moi-même quelqu'un de terriblement rassuré. Alors c'est peut-être une façon de consolider le fait de me rassurer moi-même, mais c'est peut-être un moyen que j'ai trouvé pour avoir moins peur. Mais déjà à 18 ans, j'avais compris que si je voulais que notre histoire dure, en tout cas... un minimum, que ce soit pas l'histoire d'une nuit ou de deux nuits, il fallait que j'aie les épaules assez larges pour le vivre.
Et puis il y avait il y a une sorte de jeu entre vous qui s'établit et d'ailleurs lui il est joueur aussi, hein. Jouer le jeu, c'est probablement ce qu'il a toujours refusé de faire. Malgré tout, il refuse de jouer le jeu, mais il est joueur aussi.
Et puis je me suis toujours raconté ça, mais après tout, c'est peut-être ce qui m'a aidée ou ce qui m'a sauvée. J'ai toujours pensé, à cause de la fin, mais là, vraiment, on ne va pas raconter la fin parce que non. Ça, je ne veux pas. Mais que, bon, on va se séparer en fin 79. c'est moi qui prends un peu le large parce que ça devient vraiment trop compliqué. Et puis je me dis, bon, il faut que... J'ai beaucoup souffert par moments de ces silences qui pouvaient durer un mois. Je me tordais dans tous les sens. Enfin bon. Et bien, malgré tout, en fait, c'est ça, d'une certaine façon, qui m'a renforcée et qui m'a appris la patience, qui m'a appris des tas de choses. Et
vous êtes à la fois là, il y a la patience, mais on sent que c'est un... Vous m'avez dit tout à l'heure, vous écrivez à l'os. Mmh. Vous aimez l'intensité, Nathalie Reims.
Mais je ne suis qu'intensité. C'est-à-dire que où je ne vis rien,
ouais.
C'est-à-dire où j'ai une capacité à dormir et à ne rien vivre, qui est extraordinaire, je ne peux pas imaginer les rapports amoureux sans intensité. Ou alors c'est de l'amitié profonde, c'est des tas de choses que je vis. Mais pour moi, l'amour, c'est forcément le sentiment amoureux, même aujourd'hui à l'âge que j'ai. C'est-à-dire que ça ne peut être que quelque chose de terriblement intense, parce que sinon, comment séparer le sentiment amoureux de l'amitié, par exemple.
Exactement. Et lui, il est, vous dites, sa vraie école, ce fut la rue. L'exercice de base consistait à marcher sans cesse dans Paris, cette ville merveilleuse, à regarder, observer, écouter, rencontrer plein de gens. Donc lui, c'est un oiseau. Donc lui...
Oui, lui, il échappe tout le temps.
Vous êtes un point fixe.
Oui, ben, je suis un point fixe parce que j'essaye toujours de le rattraper, d'essayer de sortir. Alors... Voilà, d'aller essayer de rattraper l'oiseau jusqu'au moment où j'imagine cet oiseau tellement libre, volant de branche en branche, jusqu'au moment où je vois la cage de Suresnes, où là je comprends que, ben, comme tout oiseau, il y a bien une cage quelque part. mais de toute façon, oui, ça je n'aurais de cesse que... Et puis, je crois que les femmes, aussi telles qu'on est, enfin peut-être pas toutes, mais c'est tellement plus désirable... Un homme difficile à attraper que quelqu'un qui essaye de vous... Moi, je me suis jamais... Si un homme a cherché à m'attraper, il m'a jamais eu, hein, ça je peux vous dire. Il a toujours fallu qu'il y ait ce challenge de vouloir attraper quelqu'un.
Je pense aussi que c'est le mystère qui vous... L'énigme, c'est la romancière
qui...
C'est vrai. C'est l'énigme de l'être. On va faire une pause musicale et puis on reprend encore notre conversation autour de votre livre, Nathalie Reims.
Ça vous va?
Oui, très bien. C'est bon, c'est
bon. Moi, ça va très bien, franchement. Si tout le monde était comme vous.
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être un idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà. Quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé. S'est aimé et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure, elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sous le corsage blanc, juste où battait son cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
C'était une version de 1964.
Et voilà, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, l'émission Bibliomanie, en présence de Nathalie Reims pour un très beau livre, Au long des jours, un roman, parce que c'est le roman de la vie. Ça vient de paraître aux éditions Léo Cher. Alors, que vient Nathalie?
Écoutez, non, mais je suis stupéfaite, parce que j'étais d'abord très contente de réécouter cette chanson qui n'est pas une de mes préférées, alors que c'est une des plus connues, mais alors avec une orchestration que je découvre... que je découvre complètement et que je ne connais pas.
Voilà, c'est l'inattendu de la vie. Laurent, tu parles, qui nous a rejoint en studio.
Bonjour,
Laurent Garibian.
Merci Valère pour ton invitation, et je suis ravi de me trouver en face de Nathalie Reims. C'est vrai que c'est un grand honneur et un grand bonheur.
Aussi, oui.
Et c'est vrai que Valère m'avait contacté, elle m'avait dit, Laurent, tu sais, notre invitée Nathalie aime beaucoup Mouloudji, donc voilà, j'ai apporté ce petit trésor, et c'est vrai que dans ce trésor, je cite Xavier Prévost, puisque c'est lui qui est le grand ordonnateur de ce coffret. Et Nathalie, vous êtes étonnée, à juste titre d'ailleurs, oui, parce que, comme beaucoup d'auditeurs, nous avons dans ce coffret de 300 chansons des versions qui sont d'abord des titres inédits, hein, il y a plusieurs titres inédits, des versions alternatives inédites, et on vient d'en écouter une.
Voilà.
Beaucoup de titres inédits en CD, et celle que nous venons d'écouter, vous en parliez hors micro, eh bien effectivement, on est très étonné par l'orchestration qui n'est pas celle que le grand public connaît. On entend la batterie, on entend quelque chose de très très différent, et donc évidemment, au moment du choix... Eh bien, dans les studios, les compagnies de disques choisissent telle version. Avec ou sans l'accord de l'artiste, d'ailleurs, c'est toujours...
Mais il y a quand même, pardon, je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, c'est Annabelle et Grégory qui ont repris les droits sur leur père, et ils ont participé à ce coffret.
Certainement.
Oui, parce que moi, je sais que c'est Grégory, son fils, qui me l'a envoyé.
Oui.
Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, rien de ce qui se passe autour de Mouloudji... dans les rééditions, on aimerait beaucoup, avec Léo Cher aussi, pouvoir rééditer certains de ses romans, qui sont aujourd'hui chez Gallimard, on verra comment, mais qui sont épuisés.
Ah oui, ça serait...
En tout cas, c'est vraiment à la fois Annabelle, Mouloudji et Grégory Mouloudji qui tout ça se fait sous leur... supervision.
Absolument, puisqu'ils sont les ayants droit.
Voilà.
Et donc, ils travaillent en collaboration,
voilà,
étroite.
Exactement.
Et certainement, ils ont beaucoup aidé Xavier Prévost,
oui,
pour retrouver justement des documents dont certains qu'on aurait pu croire perdus,
oui,
ou des documents qui ont été remasterisés,
oui,
justement pour que nous puissions les entendre dans les meilleures,
oui,
conditions.
Alors ça se tombe à pic, parce que c'est alternative. C'est le sens de la variation, Nathalie Reims.
Oui.
Vous, quand vous écrivez là, c'est comme une sonate. Vous comprenez, il y a la vie de Mouloudji, il y a votre rencontre, et il y a des variations.
Oui,
et
parce que la variation, c'est un tout. C'est-à-dire que j'allais pas, de toute façon... Je ne pouvais pas faire comprendre cette histoire sans raconter sa vie. Parce que d'abord, sa vie était très méconnue. Aujourd'hui, ses chansons ne sont plus assez diffusées. Ça, c'est mon combat, et c'est le combat des enfants aussi. Ça, c'est évident. Et pour les raisons qu'on a expliquées. Hein. Mm-hmm. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en effet, raconter sa vie... Son parcours d'homme et cette intimité qu'on a pu avoir était aussi important pour moi que la petite histoire qui est la nôtre dans la grande histoire qui est la sienne.
Est-ce qu'on peut dire, Nathalie Reims, que vous écrivez d'oreille ? Est-ce que la musicalité de la phrase...
Totalement. C'est-à-dire que j'ai été formée par la chanson. C'est-à-dire que, alors, en plus de ça, quand j'écris, je lis à voix haute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès que j'ai fini une page, qu'est-ce qui sonne juste? Qu'est-ce qui sonne faux? Qu'est-ce qui est bien? Quel est le tempo? C'est, pour moi, je travaille mes textes exactement comme des textes de chansons. Il faut que ça raconte et que ça donne un maximum d'émotion ou de joie, ou peu importe quels sont les états dans lesquels peut être le lecteur, mais vraiment au rythme de la chanson. C'est très important pour moi.
Est-ce que vous considérez que l'écriture, c'est une action? Puisqu'on sent que la jeune fille que vous êtes et que la femme que vous êtes devenue, vous n'imaginez rien. C'est-à-dire, vous prenez la vie telle qu'elle est.
Oui.
Vous dansez avec la vie.
J'adorerais danser avec la vie parce que, bon, il m'est arrivé, j'ai été greffée il y a 4 ans, bon, j'ai eu des grosses épreuves de physique, mais en tout cas, je ne sais pas, mon esprit danse avec la vie. Je ne sais pas si mon corps danse avec la vie, mais en tout cas, mon esprit, oui. Il danse plutôt avec la liberté et avec... je trouve que j'ai eu une chance extraordinaire, j'ai eu très peu d'hommes dans ma vie. Je suis tombée sur des hommes absolument merveilleux, extraordinaires, tous libres, que ce soit Léo Cher, qui est mon éditeur aujourd'hui, Claude Berry, enfin, les quelques hommes qui ont vraiment compté. Alors là, c'était vraiment des hommes libres.
Et créateurs ?
Et créateurs, ouais, et qui en avaient un peu rien à faire de ce que disaient les autres, au fond.
Est-ce qu'on peut dire aussi que les mots sont des points de suture ? Parce que, voilà, il y a une sorte de couture, hein, le lien de la vie, vous dites des choses sur cette histoire, mais vous n'en dites pas trop, c'est-à-dire juste ce
qu'il
faut. Oui,
parce que je trouve qu'il y a une indécence aujourd'hui à raconter des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, alors qu'on peut les suggérer de façon tellement plus forte. Et je trouve qu'on a la chance d'avoir une telle richesse de mots que tout peut être raconté, mais avec pudeur toujours, toujours, toujours. Ne serait-ce que par amour. Je crois que amour et pudeur, pour moi, c'est deux mots qui vont ensemble.
Et le sens de l'écoute aussi. On sent presque le cœur de Mouloudji battre quand on... Voilà, parce qu'il y a une responsabilité en tant qu'écrivain.
Mais il y avait une vraie responsabilité. Je ne cessais de penser aux enfants que je ne connaissais
et
pas.
Oui.
À la peur immense que j'avais de leur réaction, parce qu'après tout, je débarquais dans leur vie. Ils savaient que leur père n'était pas un saint. Hein. Ça, je pense qu'ils l'ont compris. Ils ont eu des enfances très difficiles avec un père qui était très atypique et pas facile du tout. Ils en ont beaucoup souffert tous les deux, même s'il l'adore et qu'il le vénère et qu'il veille sur son œuvre absolument. Mais quand j'ai pu envoyer d'abord le manuscrit à Annabelle et que j'ai reçu sa lettre, et qu'ensuite elle l'a envoyé à Grégory et que j'ai reçu sa lettre, c'était comme si eux validaient cette histoire. C'est-à-dire que j'avais tellement besoin de leur regard, j'avais tellement besoin qu'ils me disent que je ne m'étais pas trompée, que c'était bien leur père, que c'était bien ça, que c'était juste. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas ce que va devenir le livre, mais en tout cas, pour moi, le pari était gagné.
Et puis, il y a des personnages, moi, que j'ai adorés. Parce que voilà, on est dans Mouloudji, là, l'univers de Mouloudji. Mais toutes ces constellations, Jean Le Poulain, par exemple. Votre rencontre avec Jean Le Poulain, là, c'est un régal, vraiment.
Ben, parce qu'il a fallu aussi raconter quel était son parcours, quel était le lien. Surtout qu'il y avait des moments où vraiment, il y avait des creux, où on se perdait. Ouais. Hein, parce que se déposer des petits mots partout, c'est un peu compliqué. Et on est encore une fois, chez moi, j'habitais chez mon père, il y avait 2 téléphones. Il y avait un téléphone dans la cuisine, un téléphone dans son bureau. C'était pas évident. Chez lui, il n'était pas question de téléphoner. Donc bon, puis il n'était jamais là de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, à ce moment-là, il y avait...
L'univers des castings.
Il y avait le côté actrice. Donc à un moment donné, oui, je vais passer un casting. Je suis à la rue Blanche. C'est juste après l'amande polaire et j'enchaîne avec Volpone. Donc je raconte une audition dans l'hôtel particulier de Jean Le Poulain, voilà. C'est des rencontres inimaginables
et inoubliables.
Et je vais partir aussi en tournée avec lui, puis on va jouer 3 ou 4 pièces ensemble, parce que je gagnais ma vie. Ça aussi, c'était pour moi terriblement important, cette liberté de ne dépendre de personne. Je savais qu'il fallait que je parte de chez mon père un de ces jours, on était tous les deux, on était bien, on se foutait la paix, mais je savais qu'il fallait que je parte aussi.
Et aussi Barbara.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Alors, Barbara, j'ai eu cette chance extraordinaire de la rencontrer par Frédéric Botton, qui lui avait écrit, qui est un immense auteur-compositeur, aujourd'hui malheureusement trop oublié. Il faudrait un jour qu'on lui consacre une émission. Il lui avait écrit Verlaine et Rimbaud. Et j'ai eu la chance de bien la connaître et d'aller passer des week-ends appréciés. Et c'était une femme inoubliable aussi, faite de autant de rire que de douleur. Quelle femme.
Aussi du clair-obscur aussi, de l'ombre et de la lumière. Et puis, est-ce que le théâtre, cette expérience du théâtre, Nathalie Reims, puisque vous avez été comédienne avant d'être écrivain, a influé sur votre écriture?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est forgé... la chanson a influé sur l'écriture.
Oui, la chanson.
Dès que j'ai eu 13 ans et que j'ai pu... Ma sœur m'a offert mon premier Tépaz. J'avais pas de sous. Et je faisais Lido Musique, je faisais tout, j'achetais, j'allais aux puces. D'abord la chanson, puis après le théâtre. C'est-à-dire que, quand vous êtes à cette école-là, c'est-à-dire à la fois à l'école de Bernard Dimet, à l'école... Vous savez que quand j'étais... Mais maintenant, ça me fait la même chose. Si j'entends À Paris de Francis Lemarque, vous allez me prendre pour une folle, mais je dois être folle en fait, je pleure. Moi, Francis Lemarque me fait pleurer, vous vous rendez compte? Qui se souvient de Francis Lemarque?
Ah, si, quand même.
Oui, ben nous, oui, parce que. Mais oui, mais parce qu'on a le même âge, voilà. Mais si vous voulez, la puissance. Molière me fait pleurer. Brecht me fait pleurer. Il y a des tas d'auteurs. Strindberg. Oui, évidemment, je suis faite de tout ça, bien sûr.
Et vous avez écrit des pièces de théâtre? Vous aimeriez en écrire, par exemple?
Ah, j'y pense beaucoup. Mon éditeur me tanne, et puis en même temps, je trouve ça prétentieux. Je trouve que les écrivains se mettent à écrire des pièces de théâtre, à faire des films. Bon, quand c'est le cas de Florian Zeller, je trouve que c'est très réussi. Peut-être un jour si je suis prête, mais pour le moment, je sais pas.
Et la chanson? Ça vous dirait d'écrire une fois, de faire cette expérience?
Il m'arrive de la faire, mais on va dire qu'il m'arrive de la faire de façon plus confidentielle ou on va dire ou autrement.
Voilà. Autrement. Laurent, on va écouter peut-être en fin d'émission la musique que tu as choisie d'ailleurs.
On peut l'écouter tout de suite.
C'est-à-dire après, je ne sais pas comment on va faire, soit on conclut avec mais peut-être que tu vas nous la présenter.
Oui, il faut que je m'en rappelle. Est-ce que c'est bien Les Enfants qui s'aiment? Est-ce que c'est bien?
Oui, c'est Les Enfants qui s'aiment, oui. Version alternative.
Bon, alors on la met tout de suite alors.
Voilà, alors
allons-y.
J'espère que je ne vais pas me tromper cette fois.
Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage et leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour. Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour.
Version 1958.
Magnifique.
Voilà, donc Laurence, tu vas nous...
Oui, voilà, c'est donc... on va citer le nom du compositeur Joseph Kosma. Splendeur, avec ce tandem fabuleux du XXe siècle, un des plus beaux tandems avec Jacques Prévert, Joseph Kosma. Quelle rencontre! C'est donc une version alternative, inédite jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2015, enregistrée donc, comme nous le disait Flo, en janvier 1958. Il y a plusieurs titres dans ce coffret de cette période-là, et cette voix et cette interprétation. Et on a besoin de Mouloudji parce qu'on a besoin des interprètes pour nous donner un autre éclairage.
C'est absolument. Bien sûr, bien sûr. Quelle beauté.
Nathalie Reims, on a vraiment... On a parlé de votre livre, et est-ce que je pense qu'à chaque livre, est-ce que l'écriture d'un livre vous modifie? Est-ce que il y a eu un changement avant et après ce livre ou pas?
Non.
Est-ce que vous relisez?
Non.
Non, je pense pas. Non, c'est pour ça que je vous pose la question.
Non, jamais, jamais.
Pour ça,
jamais, jamais. D'ailleurs, je sais pas si les écrivains se relisent, je suis pas sûre. Hein.
Peut-être les mauvais écrivains.
Je sais rien. Mais non, non. C'est rangé sur une étagère.
Ouais.
Et puis j'oublie. Enfin, lui, je l'oublierai jamais, je ne l'ai jamais oublié, mais je veux dire non, je passe à autre chose. Et c'est pire que ça, c'est-à-dire que je ne garde rien de ce qui est écrit sur moi. Et pour la première fois cette année, mon attaché de presse et son compagnon de travail,
oui,
et de vie d'ailleurs, qui est là,
oui.
qui s'appelle Laurent Paris, donc Laurent et Gilles Paris, qui travaillent avec moi depuis plus de 10 ans, heureusement qu'ils m'ont poussé à ce que le bureau fasse une page Instagram. C'est ma première en 23 ans. J'ai une trouille des réseaux sociaux. Je voudrais que les choses se fassent que par le bouche à oreille, par les libraires, enfin. Et je garde rien. Je me retourne jamais, de toute façon. J'avance.
Oui, vous avancez. Et les titres, le titre a son importance, l'un pour l'autre. Très
mon
beau titre.
Premier livre.
Premier livre.
Je partais... éperdument à la recherche de Charles Denner, alors autre figure un peu oubliée du cinéma français, qui avait l'acteur emblématique de François Truffaut dans L'homme qui aimait les femmes,
ouais.
pour arriver à parler du deuil de mon frère que j'avais perdu quand il avait 33 ans, 10 ans auparavant.
Ouais.
J'avais l'impression qu'il était plongé dans l'oubli, que Charles Denner aussi. Non mais moi, vous savez, il y a des gens et c'est des fossoyeurs, alors je sais pas, il faudrait inventer un autre mot, c'est-à-dire des fossoyeurs. Je ne sais pas. Je remonte les cercueils à la surface, j'ouvre les boîtes.
Vous êtes une exploratrice?
Oui. Oui, ça,
un côté archéologue
de l'âme humaine, et puis surtout obsédée par l'oubli.
Alors, je cite d'autres livres, parce que moi, dès que je lis un auteur, voilà, j'aime bien les titres. Les fleurs de silence, l'ange de la dernière heure, lumière invisible à mes yeux, voilà. Et puis, l'ombre des autres. Merci Nathalie Reims.
Merci à vous
pour cette conversation,
merci
et de ce livre
infiniment
surtout.
Et merci à vous aussi pour
merci Laurent.
Pour ces
merci Nathalie, et je voulais juste dire que les titres que tu as lus, Valère, on dirait des titres de chansons.
Oui, tout à fait.
C'est très troublant.
Alors, je profite des quelques minutes, vous savez, oh, il nous reste encore un peu de temps quand même pour vous annoncer le en kiosque. Voilà, il y a des revues littéraires, il faut soutenir les revues littéraires. La quinzaine, la nouvelle quinzaine littéraire, quinzaine lettres, art et idées, dirigée par Patricia Depasse, le numéro 12051 vient de sortir en kiosque. Alors, vous avez au sommaire de très intéressant, il y a tout un dossier sur l'humanité dans le ventre des machines, et puis vous avez un entretien sur les rapports entre Freud et Marie Bonaparte. Un grand, grand entretien assez passionnant. Il y a aussi un papier sur Emily Dickinson, surtout sur Dominique Fortier, qui vient de publier aux éditions Grasset un très bon livre qui s'appelle Les Ombres Blanches. Et puis voilà, vous avez vraiment un entretien par Éric Dussert, que j'avais reçu d'ailleurs ici, Éric Dussert, un entretien sur le livre de poche, etc. Donc la quinzaine, lettres à rayer. Demandez-le en kiosque, parce que vous savez, c'est comme pour les livres, il faut demander, il faut commander.
Il faut demander, et puis il faut soutenir les libraires, surtout.
Tout à fait.
Vraiment, c'est très important. Moi, je fais partie des gens qui sont ravis qu'il y ait des filles qui ne font pas nécessairement de la grande littérature, mais qui font vivre les librairies. Et ces filles-là, elles permettent aussi aux libraires de vivre. Mais de temps en temps, être un peu curieux, faire des découvertes, les libraires, ils sont là pour ça. Parce qu'ils sont nos porte-voix, parce que nous, sinon, on rencontre rarement les lecteurs, sauf quand on fait des rencontres, en fait.
Et puis, vous avez un très joli mot pour, en ce qui concerne vos lecteurs, c'est la communauté.
Oui, c'est une communauté, parce que j'aime bien l'idée de communauté, de toute façon.
Ils vous écrivent, vous répondez, vous avez des...
Ils m'écrivent, mais à la main, parce qu'on ne peut pas m'écrire sur... J'ai pas de réseau social.
Ah oui.
Donc, ils m'écrivent 22 rue de l'Arcade à la main, et je leur réponds à la main.
Ah ok, donc oui. Vous écrivez sur des petits cahiers, Nathalie Reims, des feuilles volantes.
Non, j'ai une carte comme ça où il y a la couverture de l'ombre des autres.
Ouais.
Puis derrière c'est tout blanc et je leur mets des petits mots. Des fois ils me demandent un marque-page, des trucs. Enfin, voilà, je corresponds. La fille qui a vachement évolué dans la vie.
Et la correspondance.
J'aime l'écriture.
Ouais. La correspondance, ouais. C'est un mot qu'on peut retenir aussi.
Oui, puis je veux pas être esclave des réseaux sociaux parce que c'est trop chronophage. Je veux le temps de rêver et puis de réfléchir à la suite.
Déjà dans un autre livre ?
Non, pas pour le moment.
Pas pour le moment. Merci à vous, Nathalie.
Merci.
Merci, Laurent, d'être venu.
Merci,
Flo Descailloux. Et pour nos amis auditeurs, alors ils pourront podcaster, comme on dit, il faudra quand même aller sur Internet, podcaster l'émission. Et puis, pour en savoir plus, il faut acheter Au long des jours, roman, aux éditions Léo Cher. C'est un petit roman, mais vous savez, ce sont des parenthèses de vie. Et des fois, les petits romans nous tiennent compagnie très longtemps sur notre table de chevet.
Merci beaucoup.
Merci à vous tous. Peut-être que Flo Descailloux nous réserve encore un dernier morceau. Ah ben voilà, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai... Ça, on va avoir un dernier morceau de Mouloudji.
Je vous réserve. Un jour, tu verras. Version 1964. Et ensuite, ça sera l'émission sur la littérature prolétarienne qui arrive dans 3 minutes.
Tiens, Laurent.
Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons et la main dans la main par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui cachent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cet air pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles, loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, des yeux au fond des yeux, vers une nuit profonde, vers une fin du monde. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons et la main dans la main par les rues nous irons. La, la, la.
is not the color of my voice. If I would sing in blue, it would drain the oceans, demolish the pale blue sky. Green is not the color of my voice. It would deforestate the surface if I would be singing green. Red is not the color of my voice. If I would sing in red, it would be rage and bloodshed, impossible to storm. So I sing what I sing best. Yes, I sing what I sing best. Black, the blackest. Other side, and there's no more darkness left. My voice doesn't seem to have a color. But if I sing without a color, I would diminish all the light. There's so much blackness in my repertoire. A lot of shadows in my arsenal. So I sing what I sing best. Yes, I sing what I sing best. Black, I use up all the black, the blackest. Other side, and there's no more darkness left.
By the window.